Bonjour à tous. À Tire-d'Aile, l'émission de la LPO Aviron, donc présentée par Jean-Claude Issali, administrateur bénévole. Aujourd'hui, au sommaire, un zoom spécifique sur les rapaces nocturnes. Tire-d'Aile, l'émission de la LPO Aveyron. Donc cette semaine, zoom spécifique sur les rapaces nocturnes. Donc des oiseaux qui peuvent nous paraître bien mystérieux, mais que vous connaissez très certainement. Voilà, tous ces chants et tous ces cris d'oiseaux paraissent bien mystérieux, d'autant plus que la nuit, on n'y voit pas. Et donc, ça a laissé la place à toutes les imaginations superstitieuses. Et les ululements des chouettes et autres hiboux étaient souvent considérés comme de mauvais augure. Et d'ailleurs, il y a un siècle, et même peut-être seulement 60-50 ans, on trouvait encore des chouettes clouées sur le portail des granges. Donc les temps ont changé, bien heureusement, et aujourd'hui on les connaît beaucoup mieux. Mais déjà, un premier point, une différence entre les hiboux et les chouettes. Donc les chouettes ont une tête bien arrondie, et les hiboux ont aussi une tête arrondie, mais en plus surmontée d'aigrettes. Alors les aigrettes, beaucoup les appellent des oreilles, mais ce ne sont pas du tout des oreilles, ce sont des touffes de plumes. D'ailleurs que les oiseaux peuvent actionner avec certains muscles et les redresser plus ou moins. Mais ce ne sont en aucun cas des oreilles. Les rapaces nocturnes ont une grosse tête, mais ça, en fait c'est un effet de plumage. Ils ont des plumes très, très duveteuses qui leur donnent beaucoup de volume. Et en plus la tête, de chaque côté des yeux, il y a des plumes un peu spéciales qui forment des disques faciaux. Donc ça leur fait un visage très très plat, ça couvre même le bec. Et en fait, quand on a la chance de pouvoir observer dans de bonnes conditions un rapace nocturne, on a l'impression qu'il a un bec tout petit. En fait, si on l'a à main, quand on retrouve un oiseau mort au bord de la route ou ailleurs, on se rend compte que leur bec est quand même très développé, et aussi développé que celui des rapaces nocturnes. Mais il est bien, bien caché dans tout le volume des plumes. Et les plumes, elles vont en fait aussi couvrir souvent les pattes et les doigts. Donc tout cela leur donne effectivement un petit peu plus de volume. Mais le plumage des oiseaux nocturnes est assez remarquable parce qu'il leur confère aussi un vol extrêmement silencieux. Et en fait, ce vol silencieux, il est dû à deux phénomènes. Un premier, c'est que la surface des plumes est veloutées. En fait, les barbules qui permettent d'accrocher les différentes parties des plumes entre elles sont surmontées de petits prolongements et ça fait un vol beaucoup plus feutré. Et ensuite, le deuxième point qui leur confère ce vol silencieux, c'est que les rémiges, ce sont les grandes plumes des ailes, les rémiges primaires, les deux premières notamment, ont des petits prolongements, des prolongements de barbules aussi, un petit peu particuliers, qu'on appelle des peignes, et ça amortit les battements d'ailes. Et tous ces artifices et tout cet équipement, cette évolution des rapaces nocturnes, en fait, leur facilite la capture de leurs proies, parce que les proies ne les entendent pas arriver, étant donné qu'elles sont équipées pour ne pas faire du tout de bruit. De plus, ce plumage, il est très cryptique, il est très mimétique. Les oiseaux nocturnes ont des plumes qui sont dans les nuances de gris, de brun, de jaune, d'ocre. Souvent avec des petits dessins, des petites barres, des raies, des taches. Et tout ça fait que l'oiseau est extrêmement difficile à voir, surtout quand il est immobile. Voilà, pour revenir au bec, le bec il est bien recourbé, c'est bien un rapace. Il est effectivement très, très bien crochu pour pouvoir déchiqueter ou maintenir les proies. Et juste une petite parenthèse sur les cerfs. Les cerfs, donc au bout des pattes, au bout des doigts, des pattes, sont des griffes très acérées, bien recourbées et relativement puissantes. Si un jour vous avez l'occasion de manipuler une chouette effraie blessée ou une chouette chevêche, si elle vous agrippe la peau des doigts, ça peut faire très très mal. Il y a beaucoup de force dans les cerfs et c'est le plus souvent d'ailleurs c'est ce qui leur permet de tuer leur proie. Les proies sont surtout des micro-mammifères, des mulots, des campagnols, des musaraignes. L'autre particularité, après le plumage, ce sont les yeux, la vision. Les yeux des rapaces nocturnes sont très gros. D'ailleurs, chez la chouette hulotte, les globes oculaires sont plus gros que nos yeux à nous, humains. Donc c'est pour dire un petit peu le développement des yeux par rapport à leur corps. Par contre, ses yeux, ils sont fixes. C'est-à-dire, ils ne tournent pas dans l'horloge comme nous pouvons tourner les yeux, regarder à droite, à gauche. Les rapaces nocturnes ne peuvent pas. Par contre, c'est compensé par une très grande souplesse des vertèbres cervicales. Et donc, ils tournent très très bien la tête. Ils peuvent même tourner la tête sur 270 degrés sans bouger du tout le corps. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de repérer un rapace nocturne posé dans un arbre. Et quand on passe à proximité, il vous suit, il tourne la tête au fur et à mesure que vous avancez. Et si vous faites le tour complet, à un moment donné, il est obligé il ne peut plus tourner quand on est arrivé au bord des 270 degrés. Et il tourne la tête très violemment de l'autre côté et très très rapidement de l'autre côté pour vous suivre à nouveau. Mais ça se passe en un quart de seconde, quoi. Donc très grosse souplesse du cou. Ensuite, les rapaces nocturnes sont extrêmement sensibles à la lumière, c'est-à-dire qu'ils voient très bien la nuit, parce qu'en fait, des nuits parfaitement noires, complètement opaques, il y en a très très peu ou pas du tout. Et donc, il y a toujours, pour nous, une nuit qui nous paraît très noire. Pour les rapaces nocturnes, eux, ils arrivent quand même à y voir. Et leurs yeux sont très très bien équipés pour détecter la moindre trace de lumière. Par contre, particularité des rapaces nocturnes, ils voient très bien loin et dans leur environnement, mais quand ils ont capturé une proie, pour savoir où est la tête, où est la queue, etc., en fait, ils la touchent avec les vibrisses de leur bec. Et si on peut le voir dans les documentaires, des fois, quand ils ont capturé une proie, on voit qu'ils mâchouillent un petit peu leur proie avec leur bec, là, et en fait, avec les vibrisses, ça leur permet de bien détecter. En fait, ils sont presbytes, ils ne voient pas du tout de près. De très près, ils ne voient pas. Voilà. Mais en dehors de la vision, ils ont aussi un autre sens qui est extrêmement développé, c'est l'ouïe. L'ouïe est extrêmement performante. Ils ont une amplitude d'écoute très très large. Ils entendent très très bien les sons très très aigus qui sont émis par les micro-mammifères. et ils entendent aussi les sons bas, les sons graves des chants de leurs congénères qui peuvent être très très loin. Et pareil, quand on a la chance d'avoir un oiseau en main, si on rebrousse un petit peu ses plumes derrière les disques faciaux, on voit que les oreilles sont très grandes, de très grande taille, en hauteur. Et elles ont la particularité d'être le plus souvent un peu décalées, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre. Ça leur permet de mieux situer l'origine des bruits qu'ils entendent. D'ailleurs, il y a une expérimentation qui a été menée avec des chouettes effraies dans un local parfaitement étanche à la lumière, donc là où on a fait vraiment la nuit noire. Si on met des souris au sol, si le sol, il n'y a pas des feuilles, il n'y a pas de la terre, etc., ils n'entendent rien. Par contre, quand le sol en expérimentation est recouvert de feuilles et qu'on met une souris dedans, ils capturent la souris avec une précision phénoménale, rien que, bien sûr, quand elle se déplace, parce que si elle ne se bouge pas du tout, ils ne peuvent pas la repérer. Donc, ils peuvent capturer uniquement en se basant sur leur ouïe, donc ce qui est très très performant. Alors, on dit souvent que les rapaces nocturnes sont éblouis par le jour et qu'ils ne voient pas le jour. C'est faux, ils y voient très très bien, même en pleine journée. Mais bon, avec les évolutions qu'il y a eu, les rapaces nocturnes se sont, je dirais, spécialisés à chasser la nuit. Ils avaient déjà certainement des potentialités physiques pour voir un petit peu mieux que d'autres oiseaux, et ils les ont développées et ils sont devenus au fil des temps strictement nocturnes. Alors, la chouette chevêche, on dit que c'est la plus diurne des nocturnes. Elle peut chasser dans la journée. Et dans l'hémisphère nord, et notamment vers le cercle polaire, les chouettes effraies peuvent chasser aussi en plein jour. Mais il faut dire qu'au-delà du cercle polaire, l'été, il fait jour 24 heures sur 24. Voilà, mais le jour, en fait, les rapaces nocturnes, normalement, ils restent cachés. Ils sont dans leur reposoir, un nichoir. Ils peuvent être dans des greniers, dans des vieux pigeonniers, dans des clochers, etc. Ils cherchent les coins les plus sombres. Ils peuvent être aussi dans des arbres très épais où il y a du lierre. Voilà, leur plumage mimétique leur permet d'être moins repérés. Mais c'est vrai que si, pour une raison ou pour une autre, on dérange un rapace nocturne, on peut se rendre compte des fois qu'il est houspillé par les geais, les corneilles, les petits oiseaux, etc. Donc il préfère rester bien au calme. Et dans la journée, donc il digère les proies qu'ils ont capturées la nuit, et il rejette sous forme de pelote de réjection les parties non digestibles. Les poils, les plumes, les os, la chitine, les ongles, voilà. Et ces pelotes sont très intéressantes parce que quand on les épluche, quand on les ouvre, on peut retrouver donc toutes ces traces-là, et notamment avec les os du crâne, on peut déterminer quelles sont les proies que les rapaces nocturnes ont chassées. Autre particularité, donc, et on l'a vu au début de ce zoom sur les rapaces nocturnes, ce sont leurs chants et leurs cris. Pour eux, bien sûr, ce sont des moyens de communication entre eux, mais pour nous, ça nous permet de repérer déjà qu'il y a des nocturnes, et puis, en connaissant bien leurs cris et leurs chants, on peut savoir de quelle espèce il s'agit. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Personnellement, moi, je dors toujours avec la fenêtre entrouverte, si elle n'est pas ouverte la nuit, parce que j'adore écouter les chants et les cris des nocturnes. Voilà. Mais pour eux, donc, les mâles, ils ont un chant qui leur est spécifique. Si, par exemple, nous écoutons le chant de la chevêche, donc voilà, ça c'est le chant du mâle. Donc là, le mâle se poste à un endroit en général bien où il est bien visible de ses congénères, sur le sommet d'un toit d'une grange, sur un arbre un peu dégagé, et à la tombée de la nuit, et il va chanter pour attirer une femelle sur son territoire. Après, il lui proposera une loge ou deux loges ou trois loges et puis la femelle choisira où elle veut s'installer. Voilà, donc ça leur permet effectivement d'attirer, mais aussi de marquer leur territoire. Alors, donc on connaît bien le chant de la hulotte, hein, c'est le ululement qu'on entend régulièrement, et la hulotte étant le rapace nocturne le plus commun dans nos régions. Dès qu'il y a quelques bois, quelques haies épaisses, elle peut donc être là. On connaît aussi le chuintement de la chouette effraie, hein, qui est un genre de souffle qui peut être inquiétant quand on ne sait pas effectivement ce que c'est et d'où ça vient. Après, les jeunes ont aussi des cris un petit peu plus particuliers. Et puis, autre caractéristique dans les sons qu'émettent les rapaces nocturnes, ce sont les claquements du bec. Quand ils se sentent menacés, et dans certaines situations, ils peuvent claquer du bec. Donc ça, on le voit parce qu'effectivement, quand ils ont peur, ils le font. Pour la phase de reproduction, les rapaces nocturnes ne font pas de nid. Hormis le hibou de marée, mais qu'on n'a pas chez nous. Donc ils utilisent des cavités, des trous dans les arbres, des nichoirs, des vieux nids de corneilles, etc. Ils pondent des œufs qui sont tout blancs, qui sont relativement ronds. Et comme dans beaucoup d'espèces diurnes, c'est la femelle qui couve le plus souvent. Le mâle peut le remplacer, mais le mâle surtout, il ravitaille. Il nourrit la femelle quand elle couve et il nourrit les jeunes tant que la femelle ne peut pas les laisser, c'est elle qui les couvre pour les réchauffer. Voilà, la plupart des rapaces nocturnes sont sédentaires. Quand il y a vraiment pénurie alimentaire, ils peuvent quitter la zone pour aller chasser plus loin. Mais normalement, ils sont présents toute l'année. Les rapaces nocturnes, ce n'est pas des oiseaux faciles à observer. Et on les repère surtout en les écoutant la nuit. Et puis, on peut rechercher les pelotes. Donc, les pelotes, ce sont ces parties qui sont indigestes et qui rejettent par le bec. Ça nous permet de voir s'il y en a de présents ou pas. Parfois aussi, on peut repérer des fientes sur les bords des trous, des pigeonniers, des lucarnes. Voilà. Les observer, c'est bien, mais il faut éviter de les déranger, surtout en période de reproduction. Et par exemple, si la chouette hulotte niche dans un trou d'arbre et que vous vouliez aller la voir, soyez quand même très très prudent. N'y allez quand même qu'à la fin de la journée, parce qu'au moins si vous la faites sortir, elle pourra rentrer assez facilement, alors que si vous la dérangez le matin, elle risque d'abandonner la nichée complètement. Donc les visites, c'est plutôt le soir. Mais la hulotte peut être très agressive, elle peut vous attaquer. Et il y a un photographe animalier qui a perdu un œil parce qu'il voulait photographier en plein jour des chouettes hulottes et la femelle qui était dans le nid, elle est sortie avec les serres en avant et elle lui a crevé un œil. Voilà. Donc en Europe, en fait, nous avons 13 espèces de rapaces et nous en avons 9 en France. La hulotte est la plus commune, après on trouve la chouette chevêche, la chouette effraie, qu'on appelle la dame blanche, et on a d'autres espèces en montagne, comme la chouette chevêchette ou la chouette de Tegmalm, mais aussi on a les hiboux. Alors, dans notre région, on a du hibou grand-duc, qui se tient dans les zones rupestres, dans les zones où il y a des rochers, on a le hibou moyen-duc, et on a de plus en plus le petit-duc, qui est un rapace qui est plutôt méditerranéen, mais avec le réchauffement climatique, il y a une vingtaine d'années qu'il est apparu sur le Villefranchois, et on l'a sur un peu sur tout l'Écosse, sur les zones un peu plus séchantes. Donc vous écoutez à Tire-d'Aile, l'émission de la LPO Aveyron. Nous avons fait un zoom sur les rapaces nocturnes. Donc, dans les actions que l'on peut mener pour les rapaces nocturnes, il faut penser à laisser les arbres morts, qui ont des trous, pour que ça puisse leur servir de refuge. On peut aussi leur laisser l'accès à des greniers, à des pigeonniers, à des lucarnes. Alors, bien sûr, tout ça peut être un petit peu salissant. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des nichoirs derrière une lucarne, derrière une entrée, pour que ces rapaces nocturnes n'aillent pas dans tout le bâtiment et ne salissent pas avec leurs fientes un petit peu tout ce que vous pouvez avoir d'entreposé. Donc c'est assez facile d'aménager, ça peut être discret, et de leur laisser quand même de la place. À très bientôt. Thank you.